Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mercredi. Nous sommes le 22 septembre. La consultation publique lancée par le Citral autour du développement du réseau métro sur la métropole, le projet n'est pas abandonné, a martelé hier Bruno Bernard. L'aéroport Lyon-Saint-Exupéry va être pilote pour accueillir des infrastructures nécessaires à l'accueil du futur avion à hydrogène. La quatrième vague du Covid continue à reculer dans le Rhône. Il sera largement question d'inclusion également dans ce quart d'heure lyonnais, avec notamment le projet de l'autre soie qui entre dans une phase active de construction et de réhabilitation, c'est à Villeurbanne. Autre projet inclusif, cette fois-ci de la part d'une association, La Cloche. Cette structure permet en particulier aux plus démunis de prendre la parole, nous verrons comment.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. La consultation publique lancée par le Citral autour du développement du réseau métro sur la métropole. Quatre projets sont évoqués, dont la possible création de la future ligne E. Le Citral lance une grande consultation publique, accessible en ligne jusqu'au 15 décembre, à laquelle prendront part les élus, les acteurs socio-économiques et surtout les citoyens. Bruno Bernard ne s'est pas dit opposé à la création de la ligne E depuis l'ouest de l'agglomération lyonnaise, Tassin-la-Demi-Lune, centre à la jusqu'à Bellecour ou Pardieu. Mon avis a évolué depuis les élections, a-t-il dit. Le projet de métro E est une possibilité, affirme Bruno Bernard. Les trois autres projets ouverts à la consultation publique sont le prolongement des métros A, B et D, avec des coûts estimés entre 1 et 2,7 milliards d'euros. Le Citral a fait l'acquisition de 30 nouvelles rames sans conducteur qui entreront en service progressivement dès la fin de l'année. Dès 2022, les transports régionaux seront gratuits pour les accompagnateurs des personnes handicapées. Cela va donc concerner le réseau TER, Auvergne-Rhône-Alpes, la partie française du Léman Express, les cars Région Express et les cars Région. S'il existe déjà des tarifs préférentiels pour les personnes touchées par le handicap, aucune modalité n'était prévue pour leurs accompagnateurs. Désormais, il suffira pour les accompagnants d'une personne titulaire de la carte mobilité inclusion de retirer leur titre de transport gratuit, que ce soit au guichet, en billetterie automatique ou sur Internet. La quatrième vague du Covid continue à reculer dans le Rhône, avec un taux d'incidence descendu à 84 pour 100 000 et un taux de positivité à 1,6%. Cependant, en réanimation, le nombre de patients diminue lentement. Le nombre de patients hospitalisés est de 239 dans le Rhône, dont 75 en réanimation. La semaine dernière, 91 nouveaux patients ont été hospitalisés, dont 31 en réa.
Lyon Demain, média agitateur d'idées.
Après 2 ans d'occupation provisoire, l'autre soie entre dans une nouvelle phase de construction et de réhabilitation. Ce programme ambitieux transformera l'ancienne usine textile Taz de la rue Alfred de Musset en un site mixte logement, habitat participatif, résidence étudiante, maison des services publics, activités de l'économie sociale et solidaire. Sans oublier la nouvelle salle de spectacle du CCO, la Rayonne, d'une capacité de 1000 places. Cédric Van Stivendel était directeur d'Est Métropole Habitat lorsque le projet avait été lancé par la précédente municipalité. Aujourd'hui, maire de Villeurbanne, il revient sur ce projet et fait un parallèle avec les gratte-ciels de 1935.
J'espère profondément que l'autre soie, c'est la prochaine utopie urbaine réalisée de Villeurbanne. Mais il n'y a aucune forme de prétention là-dedans. C'est simplement une exigence d'ambition en fait, que j'essaye de poser. Donc il ne s'agit pas de se comparer ou de se dire qu'on va faire mieux ou aussi bien. Il s'agit juste de se dire que ce qui est à l'œuvre ici, ça a le même enjeu et le même impact. C'est qu'est-ce que c'est que la ville de demain. Celle de Lazare Goujon, elle s'est occupée des questions d'accès à la santé, de protection des travailleurs, d'accès à la culture. Celle du 21e siècle, c'est l'enjeu de la question de l'altérité, des liens, de comment est-ce qu'on vit ensemble malgré nos différences, malgré celles et ceux qui essayent de nous opposer, de nous diviser, de nous renvoyer chacun de là où on vient, de là où on est, dans des cases. Voilà, c'est à ça qu'on s'attelle. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une ambition d'utopie urbaine, parce que c'est extrêmement difficile. Si c'était facile, je ne parlerais pas d'utopie, mais je crois que créer la ville du 21e siècle, la ville des liens, c'est une utopie urbaine que nous avons à réaliser ensemble. C'est ça que je pose quand je dis ça.
Concrètement, qu'est-ce qu'on va trouver ici sur ce site? J'ai l'impression beaucoup de choses.
Plein de choses. On ajoute des choses, non pas dans une superposition, mais dans une articulation. On aura du logement digne et abordable pour chacune et pour chacun, mais dans toutes les formes. Du locatif, de l'accession, de l'hébergement d'urgence. Mmh. On aura de la culture avec le projet de la Rayonne, du CCO, une salle de concert, des lieux d'exposition, des lieux tout simplement de rencontre. On aura bien sûr des lieux de convivialité, un bar-restaurant. On aura aura de l'activité économique, on aura de l'activité qui permet aussi à des gens de s'insérer par l'économie, et puis on aura un parc, c'est la chance de ce lieu, un très beau parc dont on se fera le premier parc autogéré de la métropole, c'est-à-dire qu'on va en confier la gestion aux habitantes et aux habitants, alors bien sûr avec les collectivités présentes, avec le GIE, mais on veut faire le premier parc dont la conception va être portée par les habitants, avec le respect du déjà là, hein. On a des arbres centenaires ici qu'il ne s'agit surtout pas de toucher, mais par contre sur les fonctions, sur les aménagements, sur qu'est-ce qu'on y fait, comment on y vit, on va laisser les habitantes et les habitants construire cela avec nous.
C'est quelque part aussi élargir la ville et faire en sorte que les gratte-ciels justement ne soient pas juste le quartier central de cette ville. Ça peut être le deuxième centre ici ?
Non, ça peut être le cinquième, le dixième. Moi, je suis pour la ville de la polycentralité, ça veut dire de la ville dans laquelle il y a plusieurs centres. Mais je suis aussi pour une métropole de plusieurs centres. C'est-à-dire que à la fois, c'est un projet pour la ville, mais c'est aussi un projet pour la métropole que de se dire qu'il faut des endroits attractifs de partout dans le territoire et qu'il ne s'agit pas de concentrer l'intérêt économique, social et culturel uniquement sur quelques poches dans la métropole. Il en faut de partout. Alors, on a besoin d'une intensité urbaine pour que ça fonctionne. On ne peut pas avoir des petits centres de partout, mais on a besoin de mettre la ville dans une tension de liens, d'intérêt, d'attractivité et d'intensité au sens des usages, de ce qui se passe, des fêtes qui s'y passent. Le CCO fait ça très très bien. À chaque fois que les gens viennent ici, ils sont enchantés. J'invite d'ailleurs vos auditeurs à venir le découvrir à l'occasion de l'aventure ordinaire autour du 2 octobre notamment. Voilà, et c'est ça la ville de demain pour moi.
Les premières livraisons sont prévues en 2023. En particulier, 281 logements seront construits grâce à des financements européens, comme le rappelle Renaud Père, vice-président de la métropole en charge du logement.
Bon, d'abord, on est au cœur d'un quartier qui est un quartier métropolitain. Hein, on est à la jonction entre Villeurbanne, Vaux. D'ailleurs, on aura d'autres projets, mais on en parlera dans les mois qui viennent sur la cité Taz, hein, où il va falloir aussi avoir une vraie réhabilitation du logement social. C'est le lieu quand même de naissance de la transformation, en tout cas, de l'industrie de la soie. Donc, tout ça, c'est le cœur de la métropole. Donc, pourquoi ça a vertu d'exemple ? Bon, d'abord, c'est un financement européen qui nous a permis quand même de faire tout ça. Hein. Mmh. 5 millions d'euros sur le projet Home Silk Road. Donc, c'est un projet européen qui permet de financer quoi ? Financer l'accompagnement des plus précaires. Alors, je prends juste un exemple. Ce que vous pouvez constater quand vous venez dans ce quartier, c'est qu'on a sorti en quelques semaines, quelques mois, du logement qui sera du logement temporaire pour 21 familles. On est quand même dans cette métropole de l'hospitalité. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, c'est surtout la volonté, mais qui a été impulsée, je le dis, dès 2018. Hein, donc, ce n'est pas le mandat qui est le nôtre à la métropole, mais qui a été initié par les élus de la métropole, par les élus de Villeurbanne, mais aussi par Est Métropole Habitat, par Alinéa, par le CCO, par la ville de Villeurbanne et par les services, je veux dire. C'est la volonté, véritablement, d'ancrer ce quartier dans l'ensemble du territoire. Donc, d'abord dans Villeurbanne, ça va devenir, c'est en passe de devenir un lieu d'activité culturelle majeure. Il y aura un espace dédié à la culture et le rôle du CCO en la matière est majeur. Et puis surtout, c'est que les familles soient impliquées dans l'ensemble de l'environnement et que les voisins accueillent aussi ces familles. Pour moi, je le vois comme un point de départ d'une certaine manière. C'est un point de départ d'abord de la politique du logement d'abord. C'est un point de départ de l'urbanisme transitoire ou temporaire. Dorénavant, on ne peut plus faire des grandes opérations d'aménagement sans se dire, dès la pose de la première pierre ou même un peu avant, on utilise quand même le terrain pour préfigurer les usages de demain. Et puis c'est, et je crois que c'est, j'y suis particulièrement attaché, mais comme le maire de Villeurbanne l'est, comme le maire de Lyon et comme la ville de Lyon l'est, c'est aussi construire une ville, une métropole de l'hospitalité. Finalement, la leçon de tout ça, c'est qu'on est allé décrocher un financement européen, donc une reconnaissance au niveau international d'une certaine manière, pour transformer cette ville et faire de l'accueil. Bah, je crois que c'est ça, en fait. C'est peut-être fini le moment où on faisait de l'hyper-attractivité, avec de l'hyper-centralisation, en se disant notre concurrence est Milan, notre concurrence c'est Barcelone. Peut-être que là, ce qu'il s'agit de faire, c'est de dire comment, par les usages, par l'accueil des hommes et des femmes qui sont les plus démunis, eh bien, on devient exemplaire dans cette Europe à laquelle nous sommes attachés.
Le chantier se veut exemplaire aussi en matière de réemploi des matériaux. Céline Reynaud, directrice générale d'Est Métropole Habitat et du GIE La Ville Autrement.
On a une volonté vraiment de changer d'échelle sur le réemploi. Donc on a un volume assez important de réemploi qu'on peut faire sur ce site. Donc sur le bâtiment patrimonial, hein, le fameux bâtiment A de l'UFM. Donc on va récupérer 2000 tonnes, un peu moins de 2000 tonnes de matériaux qu'on va essayer de réemployer sur le site pour partie. Et ensuite réemployer sur d'autres sites. Donc ça, c'est ce qu'on va faire à partir du lieu même de l'autre soie. Et le caractère exemplaire, c'est aussi de réutiliser des matériaux qui viennent d'autres opérations, donc notamment l'opération de démolition de Croix-Luizet que l'on a conduit ces derniers mois et sur laquelle on a récupéré un certain nombre de matériaux, dont des parquets, 5000 m2 qui vont être réinstallés dans la prochaine résidence qui sera sur le bâtiment patrimonial.
La future salle de concert est prévue pour une ouverture à l'été 2023. Un centre d'hébergement d'urgence devrait sortir de terre en 2026. Une vingtaine de familles logent d'ores et déjà à l'autre soie dans des bâtiments modulaires à l'entrée du site. Autre exemple de projet inclusif, cette fois-ci de la part d'une association, La Cloche aide les sans-abri. Cette structure qui existe au niveau national permet en particulier aux plus démunis de prendre la parole. Les explications de Nicolas Delattre.
Selon la Fondation Abbé Pierre, la France compterait 300 000 sans-abri, un chiffre qui a doublé en l'espace de 10 ans. Nous rencontrons Mélanie Dagneau, directrice de l'antenne Auvergne-Rhône-Alpes de l'association La Cloche, qui aide les sans-abri, notamment sur l'aspect social. L'occasion de rappeler ce qu'est La Cloche et ses actions à Lyon et dans les environs.
La Cloche, c'est une association qui lutte contre l'exclusion des personnes sans domicile en changeant le regard sur le monde de la rue et en créant du lien entre voisins avec et sans domicile. Alors pourquoi la question du lien social ? Parce qu'on considère en fait que c'est essentiel. C'est ce qui permet vraiment aux personnes d'exister et pas seulement de survivre. C'est vrai que quand on pense aux personnes sans domicile, on pense souvent notamment à la question de l'alimentation, du logement ou de la santé et on oublie trop souvent qu'à la rue, finalement, on meurt plus d'isolement que de froid. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on informe les citoyens, quelle que soit leur situation socio-économique, à agir pour rendre leur quartier ou leur ville plus inclusif. Donc comment on s'y prend ? On va regarder un petit peu en fait ce qui se fait à l'échelle d'un quartier, quels sont les acteurs présents, par exemple les habitants avec et sans domicile, des commerçants, des collaborateurs d'entreprise, des tiers-lieux ou des structures sociales. Et on va proposer à chacun de ces acteurs des parcours en fait, pour les aider à rendre leur quartier plus inclusif.
Et donc vous donnez la parole aux personnes sans-abri à travers différents médias.
En effet, on donne la parole aux personnes en situation de précarité, parce qu'on considère qu'elles ne l'ont pas assez. Et on le fait notamment par le biais de médias. Alors on a différents médias, on a un podcast qui sort par exemple tous les 15 jours. Et donc là, c'est les personnes en fait que l'on rencontre soit lors de nos permanences, soit chez nos partenaires, aussi lors de rencontres de rue, qui on propose en fait de participer. Les thèmes, on les co-construit aussi ensemble. Ce podcast, il permet vraiment de parler de sujets du quotidien. Par exemple, l'accès aux soins, l'accès à la culture, l'amour aussi, qui est une thématique à laquelle on ne pense pas forcément toujours. Mais les personnes sans domicile aussi tombent amoureuses. Et puis, on a d'autres médias comme, par exemple, une radio ou une gazette qui sort deux fois par an. Et là aussi, c'est un journal que l'on vraiment co-construit et que l'on écrit avec les personnes sans domicile.
Cette gazette, justement, elle est sur le thème des relations amoureuses des sans-abri. Juliette Bertelier, qui fait également partie de l'association La Cloche, a participé à la conception de cette gazette. Elle raconte.
Donc La Gazette, c'est un petit magazine qu'on sort deux fois par an. Et cette fois-là, c'est l'antenne de Lyon qui portait le projet. Et on a décidé de parler de l'amour, parce que c'est un sujet qu'on aborde toujours lors de nos rencontres avec les personnes sans domicile. Mais on en parle en privé, on en parle entre nous. Et on se rend compte que dans les médias ou autres, c'est un sujet qui est rarement abordé. Donc on trouvait ça intéressant de mettre un peu en lumière ce que les gens pouvaient penser sur ce sujet-là.
Oui, c'est vrai que le thème de l'amour, on en parle très peu, enfin l'amour pour les sans-abri. Alors justement, de quoi ça parle dans cette gazette ? Qu'est-ce que vous avez trouvé sur ça ?
Alors on s'est rendu compte qu'en fait, la vie amoureuse quand on est une personne sans-abri, elle est tout aussi importante que la vie sociale, mais également que la vie amoureuse des personnes qui ont un domicile. On se rend compte qu'en fait, on a souvent tendance à placer les besoins comme la nourriture, se doucher, on a souvent tendance à les placer comme les besoins primaires, sauf que en fait créer du lien et avoir des relations avec d'autres personnes sont tout aussi quelque chose de tout aussi important. On s'est rendu compte aussi qu'on avait les mêmes problématiques, que l'amour ça faisait mal pour tout le monde, mais qu'en même temps vivre à deux c'était, comme là je cite une personne du magazine qui a dit, à deux c'est mieux, et en effet c'est ça.
La Cloche continue ses actions toute l'année, même l'été, avec ses partenaires, après-midi jeux de société dans un bar, activités jardinage et bien d'autres. De quoi nouer des liens, alors que plus de 80% des sans-abri disent ressentir le rejet des passants, selon une étude de la Fondation Abbé Pierre.
Merci Nicolas. La colocation est particulièrement prisée. Cette solution permet de sortir de l'isolement et de bénéficier d'un logement plus grand tout en réalisant des économies. Elle est aussi prisée des investisseurs car elle représente un placement très rentable. Les biens se louent rapidement et rapportent davantage qu'une location simple. Lyon, deuxième aire d'attraction du pays, accueille chaque année plus de 155 000 étudiants. D'après une étude, la capitale des Gaules fait partie des trois villes où il est le plus rentable d'investir dans une location en 2021. Lyon est troisième derrière Lille et Marseille. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Excellente journée.